RCF.
Un prêtre né en Ardèche, ordonné en Ardèche, qui devient l'évêque de l'Ardèche. L'histoire est plutôt rare et nous faisons connaissance aujourd'hui de Mgr Hervé Giraud, archevêque évêque du diocèse de Viviers. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci de prendre quelques minutes pour vous prêter à l'exercice du portrait. On va essayer de mieux faire connaissance avec vous, même si j'ai compris que certains vous connaissent ici déjà depuis quelques années. Mais forcément, vous étiez tout jeune prêtre et donc c'est l'occasion de faire connaissance avec vous, avec votre parcours. Une page une qui s'ouvre le 26 février 1957, c'est ça ?
Oui, je suis né tout simplement à Tournon, sous la tour de la Vierge. Là, il y avait l'hôpital à l'époque, voilà. Donc je suis né à Tournon et j'ai été baptisé le 18 mars, exactement, à Mauves, dans le village de ma grand-mère, je dirais.
L'anniversaire de baptême est plus important que l'anniversaire de naissance pour les prêtres, c'est ça ?
Non, mais j'aime bien retenir les deux dates parce qu'elles sont importantes. Les deux, on pense pas souvent à l'anniversaire du baptême. 18 mars, c'est d'ailleurs un 18 mars où j'ai appris ma nomination d'évêque auxiliaire de Lyon, donc c'est une date aussi qui m'a doublement marqué, disons.
Le mois de mars 2024 aussi a été mouvementé, non ?
Le mois de mars aussi a été mouvementé, il l'avait déjà été pour ma nomination comme archevêque de Sens-Auxerre et prélat de la Mission de France, le 5 mars 2015, et puis là ça a été le 13 mars 2024, c'était d'ailleurs le 11e anniversaire du pontificat de François, et qu'a été annoncée cette nomination d'évêque de Viviers.
Le contexte familial en 1957 à Tournon, qu'est-ce qui se passe ?
Le contexte familial, c'est que je suis le second d'une famille de 4 enfants. Mes parents habitaient à Malataverne, c'est-à-dire juste à côté de Viviers. Voilà. Un père voilà, qui travaillait dans le monde de la restauration. Et puis maman qui a élevé ses deux premiers enfants avant d'en avoir deux autres.
Il vous a transmis la cuisine et le goût de la cuisine aussi ?
Alors la cuisine, mon père cuisinait donc très bien, maman aussi, mon frère, mon autre frère. Donc moi, comme je dis souvent, j'étais le goûteur. Voilà, j'avais pris la meilleure place, elle ne m'a pas été enlevée.
Votre papa vous a aussi laissé un autre héritage. Quand on regarde l'anneau que vous êtes en train de toucher en ce moment et quand on regarde les murs de votre bureau, je vais me faire les yeux des auditeurs de RCF, il y a des coques un peu partout sur les murs et sur votre anneau.
En fait, mon papa n'était pas croyant, il était baptisé mais il n'a jamais été croyant. Et de toute façon, le dimanche, bah, souvent, c'était au restaurant, il y avait beaucoup de travail. Et il avait une chevalière, et sur la chevalière, il y avait un coq avec une toque de cuisinier. Quand je suis devenu évêque, donc en 2003, comme il ne mettait jamais sa chevalière, plutôt que d'acheter un anneau pastoral, épiscopal, je lui ai demandé son anneau, et j'ai gardé, en fait, le coq, en me disant que c'était un beau symbole, parce que le coq symbolise à la fois celui qui chante avant le premier rayon du soleil, et le soleil levant qui vient nous visiter, ben c'est le Christ ressuscité. Le coq, c'est aussi celui qui chante d'une autre manière, alors que Pierre a renié trois fois. Le coq, c'est aussi le coq, évidemment, des clochers, le coq sportif, etc. Donc, l'orfèvre, quand je suis devenu évêque, c'est le diocèse de Viviers, justement, qui a voulu m'offrir la crosse. Et l'orfèvre a choisi ce symbole du coq. Et c'est la queue du coq qui fait une sorte de bâton de pasteur, quoi, de bon berger, j'espère. Et donc, depuis ce temps-là, tous les gens que je rencontre admirent ce coq. Je donne des explications aux enfants, aux adultes, à la fin des messes. Et puis souvent, ils m'offrent aussi un coq qu'ils ont trouvé quelque part. Et du coup, j'ai une grande collection, des peintures, des livres, des objets de toutes sortes, du Portugal ou d'ailleurs.
On prendra, si vous le voulez bien, la photo de votre crosse pour la mettre sur le site internet pour que les personnes puissent voir cette image. Effectivement, une crosse tout à fait incroyable. Et puis, vous avez aussi sur votre anneau et autour de votre cou, eh bien, la croix de l'évêque qui, elle aussi, a une forme particulière.
En fait, c'est tout simplement le début de ma signature, le H de Hervé. Le H qui fait déjà une sorte de croix, qui fait aussi une crosse et qui a trois couleurs, les trois couleurs primaires, c'est-à-dire le bleu du baptême, le rouge de la confirmation et de l'Eucharistie et le jaune de la résurrection. C'est une manière de dire que la résurrection habite déjà la croix et que dans toute épreuve, dans toute difficulté, dans toute mort à soi-même. Parfois, il y a déjà la vie et la résurrection qui jaillit. Voilà, donc c'est à la fois une signature, une croix et un symbole de mon ministère d'évêque.
On rembobine un peu, on revient un petit peu en arrière. Un contexte familial, 4 enfants, vous nous l'avez dit. Les études, la scolarité, ça se passe comment ?
Plutôt bien, j'étais en classe au tout début à Mauves avec mon frère aîné, ce qui fait que je suis rentré en cours préparatoire directement avec lui, avec, comme on dit, 1 an d'avance. Donc j'ai fait toute ma scolarité jusqu'en terminale avec mon frère aîné, un bac C, un bac scientifique. Et puis j'ai été admis en maths sup, maths spé au lycée du Parc à Lyon, que j'ai fait aussi avec mon frère aîné. Sauf qu'après lui, il a fait une école d'ingénieur et que moi, je suis allé à la faculté de mathématiques à Lyon. Et donc, j'ai enseigné les maths pendant 1 an dans un collège avec des 4e, 3e.
Donc, plutôt bon élève et spécialisé sur les mathématiques.
Oui, j'étais plutôt bon élève, oui. Et mathématiques, ça m'a donné peut-être le sens de l'ordre. Alors, on est ordonné diacre, ordonné prêtre, ordonné évêque. Et puis, je suis tout simplement ordonné. J'aime bien que les choses soient bien leur place, que chacun ait sa place, que chacun puisse faire avec les compétences et les dons qu'il a.
Le contexte de la foi, il est là à quel moment ? Vous avez dit, j'avais un père qui n'était pas croyant.
En fait, du côté de maman, c'était vraiment très catholique. À Mauves, ma grand-mère maternelle, j'ai peu connu mon grand-père maternel, mais était très croyante. À l'époque, on allait même aux vêpres le dimanche après-midi. Donc je participais régulièrement à la messe. Je n'avais pas eu beaucoup de catéchisme, mais le fait même de participer régulièrement à toutes les messes, bon, on entendait au moins les évangiles, ça nous marque. Et en fait, très peut-être étrangement, je ne sais pas comment dire, mais j'ai toujours eu certitude, je dirais presque sans avoir de modèle de prêtre en face de moi, la certitude que je serais un jour prêtre. Voilà. Et finalement, après mon année d'enseignement, la question est revenue très fortement lors d'une récollection à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, qui est justement dans le département de l'Yonne que je viens de quitter. Et là, dans cette abbaye, j'avais 17 ans, 16 ans et 17 ans, et je me suis dit non, je suis fait pour ça. Mais bon, j'ai quand même fait des études parce que voilà, c'était préférable quand même d'acquérir un peu de maturité humaine. Mais j'ai toujours eu la vocation, on pourrait dire, enfin le sentiment, je ne sais pas si dire, peut-être pas le mot vocation, mais la conviction que j'étais fait pour ça.
Vous êtes venu avec 2 pauses musicales. La première pause musicale, vous avez choisi Simon & Garfunkel, The Sound of Silence.
Oui, parce que bon, j'ai aussi appris à jouer de la guitare quand j'étais en terminale. Et on apprenait avec du Brassens, Hugo Frey, Jean Ferrat, et puis Simon Garfunkel, parce que c'était les titres de l'époque, quoi. Et donc, on avait appris, par exemple, en cours d'anglais, par cœur, The Boxer. Et je la connais par cœur, je peux la chanter, la jouer. Et The Sound of Silence, le son du silence, c'est aussi, ça me fait penser à cette brise légère qu'il y a dans la Bible, c'est la voix de Dieu qui a un son à la fois, une voix, mais une voix à la fois silencieuse. Et j'aime bien cette musique qui a été reprise et remixée souvent. Within the sound of silence, in restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound.
Témoin quand la foi se raconte.
Toujours dans notre émission en compagnie de Mgr Hervé Giraud, évêque installé en Ardèche le 14 avril 2024. Il est né en Ardèche, il a été ordonné en Ardèche. On va parler dans cette seconde partie justement de votre parcours de foi parce qu'il est très riche. Vous avez effectivement fait vos débuts en Ardèche, mais avant d'y revenir, vous avez fait énormément de parcours et de routes.
Oui, après les études, j'ai fait tout simplement le séminaire Saint-Irénée pendant 5 ans. J'ai fait 2 ans à la paroisse Saint-Louis-des-Français à Rome. et j'ai étudié la théologie morale fondamentale, si on pourrait appeler ça, comment se décider en conscience et en situation à tout instant. Voilà. Donc j'ai fait 2 ans d'études de théologie morale à l'université pontificale grégorienne à Rome, et puis j'ai fait 1 an de DEA, d'études approfondies, toujours en théologie morale fondamentale, sur les fondements de l'éthique, chez Saint Thomas, chez Lévinas, chez Habermas. Et puis j'ai commencé un doctorat sur l'intégration des sciences humaines en théologie morale fondamentale chez Xavier Thévenot, un moraliste parisien et qui est salésien de Don Bosco, qui m'a beaucoup marqué, avant de revenir 4 ans en paroisse à Privas.
Le mot morale, à notre époque, n'a pas toujours bonne presse. Est-ce que vous pourriez nous en parler pour qu'on le connaisse mieux, ce mot de morale ?
Le mot de morale n'a peut-être pas bonne presse, mais pourtant on est tout le temps en train de décider. Au fond, notre vie est une suite de décisions, et on devient soi-même par les décisions que l'on prend. Voilà. Par nos actes, disait Saint Grégoire de Nice, par nos actes, nous sommes en un sens nos propres parents. Nous créons nous-mêmes tel que nous voulons être, selon le modèle que nous choisissons. Ça, c'était une phrase de Saint Grégoire. Et je trouve que la morale, c'est justement ça, c'est apprendre librement à poser des actes et qui font qu'on devient vraiment soi-même. On est évidemment fils ou fille de nos parents, mais on est aussi fils des actes que l'on pose. Et la morale, c'est d'abord ça, c'est d'abord apprendre à bien décider en conscience et en situation. La morale, c'est un chemin pour être heureux et devenir heureux à travers les actes et les décisions que l'on prend.
Secrétaire national des grands séminaires, ça veut dire que vous êtes obligé d'aller un peu partout en France aussi ?
J'ai visité quasiment tous les séminaires de France à cette époque. Ça m'a permis aussi d'organiser le premier rassemblement des séminaires de France en 2001. C'était le 14 septembre 2001. Et pour ceux qui entendent ce mot septembre 2001, ça veut dire que c'était 3 jours après le 11 septembre, le fameux 11 septembre. Donc il y avait des problèmes de sécurité énormes. On était quand même 1100 à se réunir au séminaire Saint-Irénée. Et donc ça a été un temps très fort de rassemblement, non seulement des séminaristes, mais aussi de leurs formateurs.
Vous avez dit, quand vous avez pu parler de votre nomination et installation en tant qu'évêque de l'Ardèche, que vous vous sentiez reconnaissant, mais aussi un peu redevable au diocèse de l'Ardèche.
Oui, je suis redevable parce que j'avais l'impression que sur mes 39 années, pas que l'impression, sur 39 années de ministère, prêtre et évêque, diacre 6 mois, mais sur ces 39 années, je n'avais passé que 4 années à Privas. Et d'une certaine manière, je me disais, c'est pas beaucoup, alors que j'avais quand même beaucoup reçu, à la fois par la famille et aussi par l'Église elle-même. Ce qui fait que je trouvais que quand le nonce m'a dit que Vivier, ce serait une très bonne solution, je m'en suis réjoui en me disant, ben voilà, je vais pouvoir peut-être rendre en partie à la fois ce que j'ai reçu, mais à la fois aussi tout ce que j'ai acquis par mon expérience de 21 ans d'évêque.
Quelle expérience vous ramenez ? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir peut-être apporter au diocèse de l'Ardèche, fort de votre parcours, qu'on n'a pas encore fini de détailler, mais qui est très riche ?
Alors j'arrive avec 21 ans d'expérience, c'est-à-dire l'expérience de 4 diocèses, à la fois Lyon, 4 ans et demi à Lyon, 7 ans et demi à Soissons. Je suis resté aussi 9 ans dans Lyon, et puis 9 ans avec la Mission de France. Et donc c'est une expérience énorme, sans compter que j'ai été aussi président de ce qu'on appelle le Sémolem maintenant, c'est-à-dire tout ce qui est ministre ordonné et laïque en mission ecclésiale et séminaire, que j'étais aussi président de la communication des évêques de France pendant 4 ans. Donc c'est une expérience incroyable que j'ai. Je reconnais que j'ai eu une chance énorme, avec toutes les difficultés qui vont avec, bien sûr, mais d'avoir une expérience, mais surtout de commentaires aussi d'évangile, parce que j'étais le premier évêque sur Twitter. C'est pas une gloire, c'est juste que ça m'a permis de commenter tous les soirs l'évangile, et au bout d'un moment, ça fait partie de ma nature, et donc je me dis, je vais le transmettre, mais par capillarité, ça va se faire naturellement, au fur et à mesure, non pas en donneur de leçons ou en surplomb, comme on dit aujourd'hui, mais avec précisément ce dont je parlais, en écoutant les questions des uns et des autres, en disant, tiens, ça, ce que j'ai vécu, ça va m'aider peut-être à les aider à réfléchir ou à sortir d'une impasse, en disant, ben là, écoutez, ça, j'ai cette expérience, je peux vous en parler, et puis on voit si ça peut aider à résoudre telle ou telle question.
Twitter, effectivement, premier évêque sur Twitter, vous êtes connu pour ça, et pour les tweetomélies, les réseaux sociaux, la communication, pour vous, ça, c'est important?
De par ma culture scientifique, j'ai toujours pensé que tous les progrès, de toute façon, on ne les arrête pas. Par contre, il s'agit de les utiliser à bon escient. Et comment faire pour qu'elles soient utilisées pour le bien commun, pour le bien de tous? Donc, quand je me suis mis sur Twitter, on m'avait dit, mais vous avez un style très court, très bref, c'est vraiment comme les tweets. Je dis, mais c'est quoi un tweet? On m'a expliqué, je dis, ah bah oui, j'ai réfléchi 3 jours même, là aussi, décidé en conscience et en situation. Et au bout de 3 jours, je me suis dit, ok, je vais essayer tous les jours de mettre un verset d'évangile et puis un tout petit commentaire, séparé par le hashtag, comme on dit, le dièse tweetomélie, avec un tout petit commentaire d'une phrase. À l'époque, c'était 140 caractères, donc il fallait faire vraiment très, très, très court, être très incisif, positif, méditatif. Voilà, et j'ai essayé de le faire. Et on m'a dit, tu tiendras un mois, 2 mois, et en fait, ça fait plus de 13 ans que je le fais tous les soirs. Je n'ai jamais raté une soirée. J'ai fait 2 petits livres avec, que j'offre très volontiers à tous ceux que je rencontre.
On parle de la bénédiction des couples homosexuels, et le pape François a donc relancer un peu ce débat. Vous avez pris position sur cette question?
Je ne dirais pas que j'ai pris position. J'essaie d'entendre ce qui se présente. J'ai reçu des personnes, évidemment, homosexuelles. J'ai reçu surtout des parents d'enfants homosexuels. Et donc, c'est en écoutant ces parents-là, ces personnes aussi, que je me suis un peu impliqué. Le style de François, c'est de dire on part des personnes, on avance pas à pas, peu à peu, au cas par cas. Et c'est un peu ma perspective aussi pastorale. On accompagne les gens, ils en sont là, comment les faire progresser? Et c'est comme ça que j'ai fait telle ou telle interview ou tel article, par exemple sur l'homophobie. Oui, ça c'était une manière de dire, c'est pas possible aujourd'hui, ce n'est pas possible, quoi. Quand on voit encore que dans certains pays, on peut avoir la peine de mort pour ça, c'est quelque chose qui pour moi est insupportable. Je suis pas le spécialiste de la question, mais je réponds volontiers parce que je connais beaucoup de gens, et plus je vais, plus je vois que dans beaucoup de familles, ces situations se présentent, et il nous faut, comme dit le pape, accueillir ces personnes et puis avancer et cheminer avec elles, comme tout le monde le fait avec les membres de sa famille ou ses amis.
On peut s'arrêter peut-être aussi un petit moment sur la mission de France. Puisque ça fait partie, dans votre parcours, d'une très large expérience et même au-delà des frontières de France.
Oui, la mission de France, en quelques mots, est née en 1941 du cardinal Suard, qui, avec quelques évêques, se rendent compte qu'il y a une désacerdotalisation des campagnes, que les ouvriers ne viennent plus à la messe. Donc il y a un mouvement d'aller vers et d'être avec. Et donc, c'est à ce moment-là qu'un certain nombre de prêtres disent « Bon, on quitte la soutane, mais on va aller travailler avec des ouvriers et on va être des témoins de la foi en Christ dans ce milieu-là. » Alors, évidemment, il y a eu la crise de 54 avec l'interdiction des prêtres ouvriers. Mais dans cette même année 1954, Pie XII crée la Mission de France, justement, pour créer un corps de clercs, de prêtres principalement, qui engageraient leur ministère de prêtre dans le monde du travail. C'est pas pour dire on est prêtre uniquement le dimanche, mais on est prêtre aussi, ou on est chrétien aussi, tout le temps.
Vous êtes venu avec une seconde pause musicale. Alors on n'en écoutera pas le son du silence cette fois-ci, mais plutôt le son de l'orage, puisque vous avez choisi Zao de Sagazan.
Oui, il fait toujours beau au-dessus des nuages, comme dit la chanson. Je l'ai choisi parce que d'abord, on l'entend beaucoup sur les ondes, bien sûr, j'aime bien sa voix, mais le texte aussi dit quelque chose de profond. Voilà, on vit des épreuves, des difficultés, et il y a toujours un soleil qui peut apparaître. Je le disais tout à l'heure pour ma croix, la croix pour moi, elle est déjà habitée par la résurrection. La résurrection, c'est pas un happy end dans un film, c'est pas une heureuse fin. La croix, c'est à la fois mort et résurrection tout ensemble. La résurrection, elle habite. Et cette chanson, Zao de Sagazan, elle dit ça. Il fait toujours beau, voilà. Mais je dirais même presque au cœur des nuages.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs, des sables plus tendres. tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement. Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs.
La foi se raconte dans Témoins.
Troisième partie dans cette émission, toujours en compagnie de Mgr Hervé Giraud. Nous avons fait connaissance avec son parcours dans la première partie, avec la façon aussi dont il a vécu sa foi, dont il a pu la transmettre dans la seconde, avec les différentes missions dont il a eu la responsabilité, et des missions très larges auprès des jeunes, auprès de plusieurs diocèses, la Mission de France dont il est toujours le prélat actuellement, et depuis 2015, Mgr Hervé Giraud a installé le 14 avril 2024 pour le diocèse de Viviers. Vous voici donc un peu au retour aux sources, comme on peut dire, et vous êtes revenu avec une grande joie.
Oui, une grande joie qui a toujours un peu d'émotion à chaque fois que j'y repense, parce que c'est un pays auquel je tiens, j'y suis très attaché, peut-être aussi parce que dans un ministère d'évêque, les gens ne se rendent pas compte, mais on est beaucoup dans les difficultés, les épreuves à traverser, voilà. Et il y a des fois, on se dit, mais c'est vraiment dur, quoi. Et on aimerait être un peu, sinon à la retraite, du moins être allégé. Et là, quand le nonce m'a proposé le diocèse de Viviers, pour moi, c'était pas de la nostalgie, ni d'ambition, mais une nouvelle mission, avec le soleil de l'Ardèche, avec tous les sentiers que j'ai balayés pendant mes différentes vacances. Et donc, c'était une joie pour moi de retrouver aussi tous les anciens que je connaissais, la famille, de réunification de tout ce que j'avais vécu et qui pouvait se concentrer dans mes dernières années de vie ici. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais cette joie, j'ai dit immédiatement, c'est une joie immense. Je reconnais, j'ai pleuré souvent depuis cette nomination parce que je pensais pas que ça soit possible de revenir dans son diocèse d'origine. Je pensais que c'était pas possible non plus quand on avait été archevêque de revenir simple évêque, alors que pour moi c'était une évidence que peu importe, on n'est pas dans une logique de carrière ou de grimper dans la hiérarchie. Et donc de retrouver l'Ardèche, ouais, c'est un attachement qui est lié aussi à ma famille. On a des écrits de 1659 à la maison, quand mes aïeux étaient épiciers au bord du Rhône. J'ai remonté l'arbre généalogique jusqu'en 1585. Antoine Luton, fils d'Antoine Luton, fils de Michel Luton, fils de Michel Luton. C'est impressionnant de remonter jusqu'à la fin du XVIe siècle, quoi. Bon, voilà, après je sais très bien qu'il y a aussi des épines, les roses et les épines vont ensemble, et qu'il y aura aussi des soucis à porter, mais j'ai l'impression d'une petite résurrection, disons le mot, voilà.
Vous avez parlé de guitare tout à l'heure, est-ce que vous avez d'autres passions comme ça?
D'autres passions, oui, bon, j'écoute beaucoup de musique, et des musiques très diverses. J'ai aussi la passion d'abord et avant tout de commenter des petits versets d'évangile, que je mets justement sur les réseaux, mais en faisant des photos. Donc je prends beaucoup, beaucoup de photos, ce qui fait que même dans Lyon, il m'avait dit, mais en fait, avec toutes vos photos, vous nous avez fait redécouvrir notre département ou notre diocèse. Et c'est vrai que de prendre des photos, ça apprend aussi à regarder, à admirer, à louer Dieu. Donc c'est une de mes passions, c'est aussi de prendre beaucoup de photos et d'écouter de la musique, voilà.
Qu'est-ce qui fait que tous les matins, justement, quand le soleil passe et que le coq chante et que le Christ est ressuscité, comme vous nous le disiez tout à l'heure, malgré un agenda très chargé, malgré des difficultés, malgré les épines qu'il peut y avoir sur les roses, qu'est-ce qui fait que chaque matin, vous allez dire, allez, ça sera peut-être dur, mais j'y vais et j'y vais avec les convictions.
La foi et l'espérance, je dirais, m'ont aidé à des moments où c'était très difficile, mais surtout, j'étais très, très bien accompagné, soit par la famille, bien sûr, soit par des amis très proches. Quelques-uns, il suffit d'en avoir deux, trois très proches. J'ai eu un accompagnateur spirituel prêtre qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et puis j'ai actuellement une accompagnatrice et c'est vrai que je l'appelle souvent dès qu'il y a une difficulté. Et c'est vraiment une aide très, très précieuse que d'avoir quelqu'un comme ça quand il y a des difficultés à traverser. Oui.
Est-ce que c'est important le fait que ce soit une femme ?
C'est important surtout que ça soit quelqu'un qui ne soit pas simplement à bénir, je dirais, ou juste à écouter, mais à être un peu incisif ou incisive. Les conseils spirituels sont quand même très précieux pour voir se lever, se relever chaque matin. Et c'est pas une question d'homme ou de femme, pour moi, c'est vraiment une question de personnalité et de relation, c'est-à-dire sentir que cette relation va pouvoir fonctionner. Je le conseille à beaucoup de prêtres parce que c'est très utile.
Pour terminer, est-ce que vous avez un passage de l'Évangile préféré que vous pourriez partager avec les auditeurs, un verset ?
Le chapitre 20 de Saint Jean, avec Marie-Madeleine qui s'élance dès l'aube vers le tombeau. Et pour moi, elle est l'image de celle qui est déjà portée sans le savoir par la puissance de la résurrection. Alors elle y va par amour du Christ, oui, bien sûr, pour lui donner une sépulture digne, etc. Mais moi, dans la foi, je pense qu'elle est, sans le savoir, la porteuse déjà de la puissance de la résurrection. Et puis l'autre passage que j'aime beaucoup, c'est Jean 21, 15 et suivant, c'est-à-dire « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? Il nous réconcilie avec la totalité de notre vie depuis qu'on est fils de Jean. » Moi, je suis fils de Pierre, mais bon, et de Marie-Thérèse, c'est les prénoms de mes parents. Mais « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Ça, c'est pour un prêtre, c'est très important de se dire que c'est le Christ qui est le pasteur. Nous, on l'aide à ça, mais il dit « paix mes brebis ». Voilà. Il dit pas « sois le pasteur ». En grec, c'est bien « paix mes brebis ». Et ça, c'est deux passages, Marie-Madeleine et puis la figure de Simon-Pierre qui me marque.
Votre devise ne changera pas.
Oui, c'est toujours la même. C'est celle de saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 1. « Ressuscité avec le Christ ». C'est un pluriel parce que le Christ, quand il ressuscite, il ne ressuscite pas seul, il ressuscite avec son corps. Et son corps peut s'entendre aussi avec le sens de tous, quoi. Nous sommes déjà ressuscités avec lui. Ce n'est pas simplement une promesse future, c'est déjà un présent. Et quel que soit notre état de vie, qu'on soit laïque, qu'on soit prêtre, diacre, religieux, religieuse, peu importe, ce qui compte, c'est que nous soyons ressuscités avec le Christ. Après, des distinctions, il en faut pour le service, mais c'est second par rapport à cette réalité commune qui est de revivre et d'être relevé par le Christ.
Un dernier mot pour tous les Ardéchois et les Drômois qui vont entendre cette émission. J'ai dit les Drômois volontairement parce que je sais que vous connaissez très bien le nouvel évêque de la Drôme.
Oui, je connais bien sûr François Durand. Je l'ai eu quelques années au séminaire quand j'étais supérieur du séminaire universitaire de Lyon. Donc j'ai eu la joie d'avoir François au séminaire, donc vraiment j'étais très très heureux qu'il puisse devenir l'évêque de Valence. Je savais au moment de son ordination que j'irais à Viviers, donc je me disais qu'on ferait sûrement un tandem, mais un tandem qui n'est pas entre nous deux, qui est entre deux églises locales, deux églises particulières, celle de Valence et celle de Viviers. J'espère qu'on fera et qu'on continuera de faire des ponts, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble encore et toujours. Mon message c'est de dire nous allons ressusciter encore et toujours ensemble.
Un grand merci, Monseigneur Hervé Giraud, pour cette émission.
Merci à vous.